pour tous ses habitants, la petite Érythrée, soumise à un dictateur alcoolique, en qui pourtant on voyait dans les années 90 un nouveau modèle de dirigeant africain.
Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter.
France Inter, la différence.
Et la différence, c'est tout de suite avec Daniel Merbet pour Là-bas si j'y suis. Et puis vous savez, ça commence toujours par la même chose, un répondeur.
Bonsoir Là-bas si j'y suis, bonsoir Daniel, bonsoir à toute l'équipe et à tes reporters. Voilà, je vous appelle juste pour vous dire à quel point j'étais ému et heureux de tomber par hasard sur une des vieilles émissions de Là-bas si j'y suis de 2004, Les Bisous. Ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait me souvenir surtout. Et de poser la question, c'était quoi votre premier baiser? Je m'en souvenais plus et j'ai cherché, j'ai repensé à quelque chose qui n'est pas si vieux. Hein. J'ai pas 30 ans, c'était il y a à peine plus de 10 ans. Et ça m'a remémoré tout ça et ça m'a fait un plus grand bien. Voilà, merci à vous, continuez vos émissions si géniales. Je vais toutes les réécouter du coup, je ne peux pas en rater une. Ciao.
Bonjour à tous les AMG, voilà, c'est la première étape de la marche de l'acier. Je suis avec les Florange qui vont monter le Cap Bailly, donc voilà, première étape à Nandre. C'est une petite minière en plein sur l'ancien site des mines de fer. Voilà, ils viennent de faire 35 km. Demain, l'arrêt est prévu à Verdun. L'arrêt définitif, c'est-à-dire arriver à Paris le 6 mai avec spectacle de grandes vedettes. Il y a déjà Zebda, Lavilliers, quelques trucs qui sont prévus. Voilà, et ben, c'est un ancien mineur de fer, Charlie, qui était au bout du fil. Bonjour à tous et on lâche rien. À bientôt.
Salut Là-bas, si j'y suis. Je voulais proposer à François Ruffin de venir en Norvège, parce qu'il parle beaucoup de protectionnisme, puis nous en Norvège, on s'en bat pas, on l'applique. Alors, notamment, on fait beaucoup de protectionnisme au niveau de la production agricole. On a toute la Norvège est gérée par 7 syndicats, c'est-à-dire qu'il y a 7 coopératives qui gèrent toute la production de lait, etc. Donc on n'a qu'une seule marque d'œufs, on n'a qu'une seule marque de lait, etc. etc. Donc bah, d'un côté, ça protège effectivement bien les paysans, pas de problème, génial. De l'autre, ben moi, en Noël, il n'y avait plus de beurre, quoi. Pendant un mois et demi, ben, les tartines, c'était au pain tout court. Et en même temps, on a quand même l'impression que les mecs qui se goinfent le plus sur la bête, c'est plus les coopératives que les paysans. Et puis toi, quand t'arrives et que tu payes ta brique de lait à 18 couronnes, ça fait quoi? Ça fait 2,50€ le litre. Voilà, donc oui, mais il faut faire quelque chose, c'est clair. Moi, j'aurais plutôt tendance à prendre contrôle des grands groupes pour pouvoir prendre contrôle des donneurs d'ordre. Mais pourquoi pas en discuter? Et François, viens faire un tour en Norvège, en plus il fait beau. Et si tu viens, ramène des bières parce qu'il n'y en a pas beaucoup par ici. Allez, salut.
Bonjour, Jamel de Bois-Colombes. Je voulais réagir sur l'émission d'aujourd'hui. Et franchement, bravo. Bravo parce que moi je me dis, voilà, j'ai 48 ans et j'ai toujours entendu la Palestine occupée. Et un peuple qui vit depuis 60 ans comme ça, je trouve ça aberrant. Et tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, je trouve ça génial. Même moi, je n'y avais pas pensé, je pensais toujours à deux états différents, quoi, la paix pour chaque, que chacun vive en paix dans son pays. Et c'est vrai que le fait d'avoir un état pour les ou un pays pour les deux états, je trouve ça génial. Bravo encore et à bientôt. Et j'espère qu'il y aura d'autres émissions comme ça, parce que franchement, c'est exceptionnel. Merci, au revoir.
Salut et bravo pour cette émission d'aujourd'hui sur Israël et sur l'état commun. C'est une idée que j'avais depuis longtemps et c'est formidable d'entendre de nouveaux arguments et d'entendre que cette idée fait son chemin. C'est vrai que il ne faut pas confondre disparition de l'État juif et présence ou non des juifs sur le territoire de la Palestine. Bravo, bravo, bravo. Vous avez ajouté aussi l'argument sur la sécurité des juifs auquel je n'avais pas pensé, qu'effectivement les juifs sont beaucoup moins en sécurité en Israël qu'ils ne le sont dans des états communs avec d'autres communautés. Voilà, salut.
Oui, alors ça me semble intéressant comme proposition et semble-t-il dense. Mais jusqu'à présent, vu ce qu'on voit sur le terrain et par rapport par exemple au refus d'Israël d'accepter la supervision de l'ONU quant à ce qui s'est passé sur les territoires hein, palestiniens, peut penser que c'est quand même, pour le moment, peut-être un peu utopique, quoi. Par ailleurs, il y a une chose qui peut peut-être aider dans le sens où ça peut précipiter les choses. Contrairement à ce que disait Eric Hazan, la situation économique d'Israël n'est pas florissante. Pour preuve, les masses d'indignés qui se sont réunies il y a quelques mois en Israël et qui ont protesté à cause des conditions de vie déplorables, quoi. C'était Alain de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Salut Daniel et tous les auditeurs. Le collectif vosgien informé pour annuler la dette continue de tenir des réunions débat dans le département des Vosges et sera présent à Mirecourt le vendredi 30 mars à 20h30 à la salle de la Bourbonnière. Venez nombreux participer à ce débat démocratique car il est urgent, face à la sempiternelle rengaine du comment faire pour rembourser la dette publique, de comprendre et de poser d'autres questions. D'où vient cette dette? À qui profite-t-elle? Est-elle légitime? Faut-il la payer? Faut-il baisser les dépenses de l'État, la bonne dette, alors qu'en 20 ans, elles n'ont pas augmenté en pourcentage du produit intérieur brut? C'était Colette à Mirecourt.
Bonsoir, juste une information. Samedi 31 mars à 17h30 à Figeac, salle Roger Laval, Catherine Ballot-Flurin nous parlera d'abeilles, d'apiculture douce et d'apithérapie. Venez nombreux. Merci.
Salut. Aujourd'hui 20 mars, cela fait 14 ans que Catherine Sauvage a foutu le camp. Je ne sais pas si elle dit encore quelque chose aux gens d'aujourd'hui, mais pour moi qui n'ai pas l'âge de l'avoir connue sur scène, j'y pense très souvent. Et en ce moment, avec le grand cirque électoral, j'aime particulièrement réentendre son interprétation du poème de Lassner, qu'elle avait fait mettre en musique par Philippe Gérard, pétition d'un voleur à un roi son voisin, très savoureux et très révélateur. Puis, si jamais ce message passait dans l'émission, j'aimerais saluer fraternellement toutes les femmes et les hommes incarcérés aujourd'hui en France et qui seront encore une fois les grands oubliés de ces prochaines élections. Or, le fait que les candidats au grand guignol républicain nous promettent de créer dans les 40 000 nouvelles places, non pas pour désengorger les prisons surpeuplées, mais plutôt pour que nous soyons plus nombreux à vous rejoindre, vous qui croupissez dans la solitude et l'indifférence générale. Cela permettra de faire baisser les chiffres du chômage et de tenter de faire taire les militants, toutes celles et ceux qui espèrent voir s'effondrer cette société minable, à celles et ceux qui croient encore en la sociale. Alors, à toutes mes sœurs et frères de misère embastillés, je vous souhaite force, courage et détermination. C'est Johan de Pérouse-Guirec.
Comme moi, vous avez appris que les épisodes de pollution de l'air se multiplient en Île-de-France et ailleurs. Et les enfants des écoles ne doivent plus courir pendant la récréation et des enseignants les confinent à l'intérieur de l'école pour ne pas les polluer. Est-ce que vous entendez les candidats aux élections s'offusquer d'une telle situation? Est-ce que vous entendez les partis politiques parler de ça? Non, tout le monde s'en fout et on continue à rouler. Voilà que le monde que l'on offre à nos enfants. Eh bien, c'est vraiment grave. On voudrait nous habituer à vivre dans la merde, à ne plus courir à la récré, à bientôt porter un masque comme à Fukushima. Non, c'est pas possible. Stoppons les camions, les bagnoles, les autoroutes, les nouvelles routes. Crions pour que nous n'acceptons jamais que des enfants meurent de l'air qu'ils respirent. Nom de glas.
Voilà, merci à tous pour tous ces messages, chers AMG et AMGE. Aujourd'hui, retour sur l'histoire de Ramon San Pedro. En 1998, en Galice, à Porto do Son, nous avions découvert l'histoire de ce militant de l'euthanasie dans cette Espagne opposée au droit à mourir dans la dignité, et toujours opposée d'ailleurs à l'euthanasie. Et la question de l'euthanasie est présente dans la campagne présidentielle, comme vous le savez, et il nous a semblé intéressant de revenir sur cette histoire, l'histoire de Ramon San Pedro, devenu tétraplégique dans sa jeunesse et qui s'est battu toute sa vie pendant 30 ans pour le droit à l'euthanasie et qui a fini par mettre lui-même un terme à son existence avec l'assistance de ses amis qu'on va retrouver et de sa compagne, Ramona, et comment il avait mis en scène sa fin et, vous l'entendrez, son dernier discours. Et puis l'Espagne, puisqu'on est en Galice, on est quand même en Espagne. Indignados, vous vous souvenez, il y a un an, commençait en Espagne ce mouvement des indignés. On avait fait une suite de reportages en mai dernier sur ce sujet. Et aujourd'hui, 29 mars, grève générale en Espagne contre le plan d'austérité, contre la réforme du marché du travail qui a pour projet de faciliter les licenciements et les baisses de salaires. Depuis un an, la situation en Espagne s'est franchement détériorée. Chômage 25%, 50% de chômage chez les 16-24 ans. L'Espagne s'enfonce et Antoine Chao est à Madrid. Voilà quelques échos, quelques premiers échos de cette grève générale, manif à Madrid.
Ici c'est Puerta del Sol à Madrid et c'est aujourd'hui c'est le 29M et le 29M, le 29 mars. Alors aujourd'hui c'est une grève générale, un an plus tard donc, contre les nouvelles coupes budgétaires, contre le démantèlement du droit du travail. C'est aussi une journée contre la consommation. Les deux syndicats majoritaires, la Commission ouvrière et l'Union générale du travail, ont appelé à cette manifestation. Et aujourd'hui, une grande marche donc, va converger vers la place de la Puerta del Sol pour un grand meeting en fin d'après-midi et en début de soirée.
Et Union Générale des Travailleurs sont les syndicats majoritaires.
Ça, c'est les commissions ouvrières et l'UGT, l'Union Générale du Travail, ce sont les deux syndicats majoritaires.
Estos dos sindicatos sont les deux organisations avec plus de représentation en Espagne, non?
Donc, c'est les deux syndicats qui ont le plus de représentation en Espagne?
Cada uno tienen más de un millón de afiliados.
Donc ils ont chacun plus d'un million de syndiqués.
Históricamente ha representado a los trabajadores.
Donc historiquement, effectivement, ils représentaient les travailleurs.
Pero en los últimos años han venido haciendo pactos con el pacto social.
Mais ces dernières années, ils ont pacté, on a appelé ça le pacte social.
El problema es que el sistema actual ya no permite más pactos.
Le problème c'est que le système actuel, la situation actuelle ne permet pas de faire encore des pactes.
Lo que se requiere es un cambio de modelo.
Ce qu'il est nécessaire c'est de changer le modèle.
Que mire por las personas antes que por el capital.
Prendre soin des personnes plutôt que du capital.
Entonces bueno, hay otros movimientos como el 15M que están más centrados en esta lucha, ¿no? De las
Donc il y a d'autres mouvements qui ne sont pas ces deux syndicats majoritaires, qui sont par exemple le mouvement du 15M, donc de ce qu'on a appelé les indignés, indignados, qui mènent aussi une lutte différente, justement plus pour les personnes que pour le capital.
Lo que tratamos también es de unir fuerzas a todos los ciudadanos que se dan cuenta de que este modelo no es sostenible.
Alors ce qu'on essaye, nous les citoyens, c'est de se réunir pour faire une force contre ce modèle qui n'est pas soutenable.
Esta huelga de hoy es solo un paso más en la lucha.
Et cette grève d'aujourd'hui, ce n'est qu'un pas supplémentaire dans cette lutte. Pero es convergente con la lucha de...
En este caso, sí.
Et aujourd'hui, effectivement, cette lutte est convergente avec celle des syndicats.
Y se intenta las bases sociales de los sindicatos mayoritarios tienen ideas similares a las del resto de la ciudadanía.
La base social de ces syndicats a les mêmes demandes, a les mêmes revendications que les citoyens, par exemple du 15M.
Ahora lo que tenemos que hacer es que las cúpulas sindicales y los partidos políticos vean qué es lo que quiere la ciudadanía.
Maintenant, il est nécessaire que les dirigeants des syndicats et des partis politiques se rendent compte de ce que demandent les citoyens, ce que veulent les citoyens.
Las políticas de los gobiernos estatales vienen dirigidas por la Troïka, no, por Europa, el Banco Central Europeo.
Parce que les politiques d'État maintenant sont dirigées, sont manipulées par la Troïka, par l'Europe, par la Banque Centrale et par le
Fondo Monetario Internacional,
le FMI,
la Commission Européenne.
Organizaciones
que no son elegidas democráticamente.
Donc des organisations qui ne sont pas élues démocratiquement.
Y que al fin y al cabo lo que hacen es... es defender la Europa del capital.
Et ils ne font que défendre l'Europe du capital.
Este sistema del capital es insostenible, tanto ecológicamente como socialmente como económicamente.
Et ce système donc au service du capital n'est pas soutenable ni écologiquement, ni économiquement, ni socialement.
Y ahí estamos en la lucha.
Et nous y sommes, voilà. C'est pour ça qu'on lutte aujourd'hui.
Bien, 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 bien. La violence, c'est de ne pas pouvoir boucler la fin du mois. Ferme, disent les manifestants devant une boutique, un opticien qui ne voulait pas fermer, qui n'avait pas encore fermé. Et ça y est, le rayon de fer descend. Ici manifeste la jeunesse précaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous n'avons pas de maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Nous n'avons pas de travail. Je n'ai pas de travail, c'est pour ça que je manifeste. Je n'ai pas de travail, c'est pour ça que je manifeste.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil et Ramon Chao. Là-bas, si j'y suis, en Galice.
Flight number 2, arriving from New York.
Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, después de las imágenes que acaban de ver, a una persona cuidando de mi cuerpo, atrofiado, insensible y deforme, yo les pregunto qué significa para ustedes la libertad. Para mí, la libertad no es esto. Esto no es vida ni vivir dignamente.
Dans un instant, cet homme qui parle va mourir. Dans son lit, face à une petite caméra vidéo amateur, il s'adresse à la justice, aux autorités politiques et ecclésiastiques. Il explique pourquoi, juste à côté de son visage, il y a un plateau de métal avec dessus un verre posé qui contient un liquide comme de l'eau et une paille. Le liquide contient du cyanure. La paille pour boire parce que cet homme n'a pas l'usage de ses mains, ni de ses bras, ni de son corps. Tétraplégique. Depuis 30 ans. Il veut mourir dans la dignité. Il considère que c'est un droit. Il ne veut plus, dit-il, être une tête avec un corps mort. Il a demandé et convaincu ses amis, ses proches, de l'aider à mourir, à partir. Ce que lui interdit la loi, l'Église et même jusqu'à la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, qui est restée muette. Ramon San Pedro, car c'est lui, a ébranlé la conscience et l'inconscient de l'Espagne. Euthanasie, suicide assisté, au-delà d'un fait de société, comme on dit, ou d'un sujet d'émission, au-delà même d'un document exclusif, exceptionnel que constitue la bande vidéo que vous entendez, le départ de Ramon San Pedro est un symptôme de notre temps, un diagnostic, un basculement, et nous ramène à une question. À qui appartiennent nos vies? Qui a le droit de vie ou de mort sur nos vies et sur nos morts?
La première fois que je l'ai vu, c'est quand il cumplait 50 ans et 25 de cama.
La première fois que je l'ai vu, ça faisait 25 ans qu'il était dans son lit et il avait 50 ans.
Non, c'est un homme à cama, pedir eutanasia et à cara que tinha, parce que era o que se lle veía, non? O corazón, o falar.
Ce qui m'intriguait de Ramon, c'est la figure qu'il avait, parce qu'il demandait l'euthanasie et ça ne cadrait pas avec sa figure, avec sa façon d'être.
Quand je lis le livre de Cartas desde el infierno, pues esa amiga pues decía mejor va, sale el libro, tenemos que ir junto de Ramón porque ya tanto tiempo sin.
Quand son livre est sorti Lettre depuis l'enfer, à ce moment-là, une amie à moi m'a dit il faut absolument qu'on aille le voir parce que ça fait longtemps déjà que ses lettres sont sorties, son livre est sorti, on n'est pas encore allé le voir.
Lettre depuis l'enfer, c'était quoi?
Cartas de Ramón.
Sont des lettres.
Et tiene algunos poemas muy bonitos.
Avec, sí. Quelques poèmes aussi, très beaux poèmes.
Él no quería ser poeta, pero era muy poeta.
Il ne voulait pas être poète, mais il était poète en réalité.
Pourquoi il ne voulait pas être poète?
No quería ser cursi. Non lle gustaba ese sufrimento que el tiña de ter que estar ali preso e decir cousas bonitas, cousas bellas.
Il voulait pas être se sentir ridicule, il voulait pas se sentir prisonnier dans son corps et puis dire des choses jolies, des choses pour lui qui étaient ridicules.
Solo quería describir pues eso o mal que lo estaba pasando porque no quería estar así, porque no aceptaba estar así.
La seule chose qu'il voulait dire c'était qu'il souffrait beaucoup, il voulait pas être comme ça, il voulait pas être enfermé dans sa paralysie, voilà ce qu'il voulait dire. Il voulait crier sa souffrance.
Pero realmente cuando abría la boca tenía poemas muy bonitos, o para mí, conmigo.
Mais en réalité, dès qu'il ouvrait la bouche, il avait des poèmes qui étaient très beaux. Pour moi, au moins, ils étaient très beaux, ces poèmes.
Cando eu caia, como froito maduro da árbore da vida, deixádeme ali mesmo onde eu caia, para que me abrace o sol e o vento e a lúa, que a vida me devore chantada tras chantada.
Ramona, l'amour, le dernier amour de Ramón San Pedro. Ramón San Pedro, a 20 ans, plonge et tombe et se casse le dos, il devient paralysé des membres, il ne devient plus qu'une tête, il n'est plus qu'une tête, un visage, et c'est tout, dans un lit. Il passe son temps à se cultiver, à lire, alors qu'il n'a pas l'usage de ses mains ni de ses jambes, et à écrire. Il devient un poète, il publie des poèmes qui font l'unanimité par leur beauté, pas seulement par l'exploit que ça représente de la part d'un handicapé. Il écrit à ses amis, il publiera un ouvrage qui s'appelle « Lettres du fond de l'enfer » et surtout, petit à petit dans sa conscience, vient l'idée de mourir. Non pas de mourir, de partir, comme il dit, comme on pourrait le faire avec un médecin ami avec qui on s'arrangerait et puis qui ferait en douce comme ça la piqûre qu'il faut, le produit qui est nécessaire. Non, il veut le faire publiquement, ouvertement, avec les siens. Vu de loin, vu d'une soirée d'un dossier de télévision, ça peut paraître facile, réglable assez vite, selon qu'on a telle ou telle position a priori. Mais quand on s'approche des gens, de ceux qui ont participé au départ de Ramón, on est troublé, perturbé, on se pose un grand nombre de questions. Ramona, elle, est une ouvrière d'une usine de sardinerie, comme il y en a beaucoup sur la côte de la Galice. Elle faisait de l'animation dans une petite radio associative et elle a entendu parler un jour, elle a vu à la télévision Ramón San Pedro qui parlait de sa cause et de la cause de l'euthanasie et de sa volonté de mourir dans la dignité, de partir dans la dignité. Elle est tombée amoureuse de cet homme et elle est allée le voir. Elle raconte la première rencontre.
Estaba de espaldas a porta. Deitado en la cama de espaldas a porta.
Et il était dans son lit, mais le dos contre la porte, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas.
Et Rosa.
Il vivait seul. Comment il vivait?
Ramón, sí. No, con toda la familia, tenía un montón de gente en la casa, tenía un hermano casado.
No, il vivait avec toute sa famille, il vivait avec
tres o cuatro sobrinas.
Son frère qui était marié et puis trois ou quatre nietas. Et le père aussi. Mm-hmm.
Bueno, pues Rosa entró, fue a saludarlo, que se llama Rosa, esa amiga.
Rosa, qui est cette amie dont je vous parle,
saludarlo, dar los besos, yo quedé atrás.
Elle entre, elle l'embrasse, moi je suis restée derrière.
Et bueno, acércate, Monchiña, me dice.
Alors Monchiña, approche-toi, Monchiña, c'est le nom qu'on me donne,
como
le diminutif
me gustó,
qu'on me
como
donne.
Me gustó eso, vi que era un señor aberto, ¿no? Porque yo iba con miedo, porque la imagen de televisión, o mejor, no era una persona muy aberta, aunque sí, tenía un poco de miedo.
J'avais un petit peu peur, j'avais une idée préconçue et cette idée de m'appeler Monchiña et de me demander où j'étais, ça m'a fait plaisir. Ça m'a.
Resulta de que Ese recibimiento me gustó y acerquéme.
Y esa recepción, ça m'a plu. À ce moment-là, je me suis approchée de lui.
Dinje café, dinje de fumar.
Je lui ai donné du café, je lui ai donné
bueno,
une cigarette.
No me quitaba los ojos de encima.
Et à ce moment-là, lui, il me regardait, il était toujours à me regarder.
Sacamos et fotos que se perdieron, por cierto.
Fait des photos qui se sont perdues d'ailleurs.
Ramona, à quoi il ressemblait physiquement?
Para mí era un atleta.
Por moi, c'était un atleta.
Perdón, pero era un atleta. No, bueno.
Un atleta couché.
Era un señor maravilloso.
C'était quelqu'un de merveilleux. Il avait
solo
un cœur
extraordinaire. Solo o que era, o que demostraba en aquella cabeza, pues era un atleta. Era,
c'était un atleta, si, mais dans tous les sens du mot. De,
era un ser cheo de vida, pero quien no aceptaba a su situación.
Qui n'acceptait pas sa situation de paralytique. Et moi, je
lo primero que me preguntara a mí cuando estuviéramos en la charla esa.
La première chose qu'il m'a demandé quand on a commencé à parler, c'est de me demander si je voulais bien l'aider à mourir. Et à ce moment-là, moi, je lui ai dit que non.
Rotundamente que no.
Ah, c'est la première chose qu'il a demandé.
Sí, sí, sí. Siempre, por lo que él me decía casi siempre, y yo hacía la misma pregunta a toda la gente, no, porque normalmente la gente que iba junto de él.
D'après ce qu'il m'a dit, il posait la même question à tout le monde.
Entonces él hacía esa pregunta. Pues eso, pues para saber a quién tenía allí o que ir hablando con esa gente, ¿no?
Y lui, il leur posait cette question pour savoir à qui il avait affaire exactement. Quelle sorte de gens c'était.
Est-ce que jusque-là, des gens lui avaient dit oui?
Sí, a mí también me dijo que sí. Lo que pasa es que nunca nos, supóñome que nunca le decía a nadie, esta persona, ayúdame, esta. No, él siempre dijo que tenía gente que sí le ayudaría.
Oui, lui, il a toujours dit qu'il y avait des gens qui lui avaient dit que oui, qu'on l'aiderait. Seulement, il ne m'a jamais dit lesquels c'étaient ces gens.
Est-ce que vous étiez bien accueilli par sa famille?
Sí, sí. Sí, no momento, sí.
Sí, sí, à ce moment-là. À ce moment-là, oui, j'étais bien accueilli.
Parce qu'en fait, sa famille s'opposait à sa demande d'euthanasie.
Según tengo entendido, eu. O único que s'opponía da familia era o irmán. Teño entendido eu con Ramón.
D'après ce que j'ai compris, la seule personne qui s'opposait à l'euthanasie, c'était son frère.
Pero la familia de Ramón non estaba de acuerdo con a nosa relación.
Mais la famille de Ramón n'était pas d'accord avec nos relations.
Et punto.
Non, est-ce qu'on peut dire que vous étiez amoureuse ce jour-là? Vous êtes tombée amoureuse?
Eu, xa antes.
Avant déjà.
Seguro que, ao mellor, por os meus fracasos que tiña, pois, bueno, estaba aburrida, tiña aí un pouco de coraje os homes, porque normalmente parece que solo me daba esa impresión a mí que solo veñen, pois, a eso, non? Pois, a tocarche.
C'est peut-être parce que, c'est peut-être parce que j'ai eu plusieurs échecs aussi avec les hommes et j'ai souvent eu l'impression qu'une femme ne leur sert que physiquement et justement.
Entonces Ramón era un amor puro.
Avec Ramón, il y avait une espèce d'amour bonito. Absolument pur, absolument net, sans.
Yo sería capaz de vivir toda la vida con él. El resto de los días.
Je crois que j'aurais pu vivre toute ma vie avec lui.
Sin ponerle cornos, cuidado, ¿eh?
Sans le rendre cocu, hein. J'aurais pu vivre avec lui complètement sans.
Sans le tromper. C'est-à-dire que vous vous seriez condamné à la chasteté.
Bueno, chamelle así. Ah, sí, claro.
Mais vous aviez des enfants. Vous dites que vous avez des enfants.
Tres.
J'ai trois enfants.
Trois enfants. Donc, vous êtes tombée amoureuse de Ramón. Et qu'est-ce qui s'est passé là ensuite?
Et bueno, encontré un numéro de téléphone, chamé, no, à mediodía, et quedó, me dejé llamar por la noite. Et à partir de ahí, todos los
lui-même, il m'a dit qu'il m'appellerait le soir, et à partir de ce moment-là, tous les jours, nous nous sommes téléphonés.
Todos los días. Le baba llevo a él flores todos los viernes.
Je lui apportais des fleurs tous les vendredis.
Flores frescas todos los viernes.
Des fleurs fraîches tous les vendredis.
Vous parliez. De quoi vous parliez? De quoi?
Que? Cosas íntimas.
De choses intimes.
No te digo.
Comment je te l'ai dit?
No, bueno, cosas bonitas, cosas nosas.
Des choses à nous, de nos problèmes.
Est-ce qu'il vous parlait de ses lectures, des auteurs qu'il avait lus, de ses références philosophiques?
Poco.
Peu.
Poco. Porque a verdad es que soy muy paleta.
Moi, je suis quelqu'un de la campagne.
Y era difícil.
C'était difficile de comprendre vraiment.
Non, esas cosas de filosofía, non? La forma que s'exprime.
Toutes les histoires de philosophie, la façon dont il s'exprimait lui-même sur la philosophie, tout ça, j'arrivais pas à le comprendre.
Mais pourtant, lui, c'était aussi un garçon de la campagne.
Pero Ramón tuvo muchísimo tiempo. Mi madre era intelectual, era un poeta, era un pensador, era
c'est une personne très intelligente, c'était un poète, c'était un penseur, c'était un intellectuel, il a eu le temps de penser.
Era muy inteligente, Ramón.
Il était très très intelligent.
Muy, muy inteligente. Yo entiendo que mucha gente non quería que él se marchara ni que pedir eutanasia, que seguira luchando, que fixera outras cousas boas, non?
Eu entendo. Comprends bien que les gens n'aient pas voulu le laisser partir, que ils auraient voulu qu'il continue à faire des choses, qu'il continue à écrire, ça je comprends bien.
Eu entendo que él tiña cabeza para moito, para pelear moito, para luchar moito, pero non estaba cómodo co seu corpo, non, é que non estaba. Tiña que ter unha persona
qu'il avait une intelligence suffisante pour faire énormément de choses, pour lutter énormément de temps, mais lui se sentait pas bien dans son corps, il se sentait très très malheureux dans son corps.
Ah, voilà des images.
Voilà des images de Ramón avec son lutrin. Et il écrivait avec sa bouche.
Il était allongé.
Sí, estaba así, para este lado, por otro, o sentado, semi-sentado.
Il était comme ça, ou bien à moitié assis, comme ça.
Mais, il vous parlait de la mort, souvent?
Non falábamos mucho de la muerte.
Non, on parlait pas souvent de la mort.
Falábamos de sobrevivir, de vivir dignamente.
Surtout de vivre dans la dignité.
Et bueno, non había morte, había marcha, una marcha.
On parlait pas de mort, on parlait de départ.
Marcharíase de viaje, como tanta gente.
Il disait qu'il partirait en voyage, comme des quantités de gens partent en voyage.
Entonces yo no tendría que votarlo. Hombre, votar de menos relativamente.
Et moi, il voulait pas que je le regrette.
Et que más?
Quoi d'autre?
Et que más?
Quoi d'autre?
De morte, non hai morte.
Non, y a pas de mort.
Bueno, non sei por qué, pero estou cheia de energía deste home, entonces pues por eso a mellor non estou a chormicar, porque mi madre.
C'est pas ce que j'aime, mais je crois que je suis pleine de l'énergie de cet homme. C'est pour ça que
todos necesitamos ter un ombro a quen contarlle cousas, porque a quen lle contaba as miñas cousas era él.
On a tous besoin d'une épaule pour s'appuyer, pour raconter
as
ses problèmes.
Cousas, as miñas penas, as miñas alegrías contaballas a él. Ao faltar él,
mes problèmes, toutes mes peines, toutes mes joies, je lui racontais tout.
Ao faltar él,
Et quand il est parti,
sola,
je me suis trouvée assez seule, oui. Mais
ce
que je dis, il m'a laissé tellement d'énergie en moi qu'il ne voulait pas que je sois triste.
Je
ne sais pas combien de temps ça, je l'aurai encore, mais je l'ai encore, cette énergie qu'il m'a laissée.
Si tu m'aimes, tue-moi. Ça paraît une question folle, une condition folle, et pourtant, c'est ce que Ramón San Pedro demande à Ramona. C'est ce qu'il demande à ses amis. Pourquoi ? Parce que la loi empêche qu'un homme mette fin à ses jours volontairement, au prétexte qu'il considère lui-même que sa vie est une souffrance, et c'était le cas de Ramón San Pedro, tétraplégique, qui considérait que son corps était un poids inutile, mort, quelque chose d'humiliant. Il y a des photos extraordinaires qui représentent, je crois que c'est en 1996, cet homme, Ramón San Pedro, qui se présente devant un tribunal. Ses amis l'ont habillé, l'ont aidé à s'habiller, il est sur un fauteuil roulant, et il vient demander à la justice le droit de mourir dans la dignité. Et la justice lui répond, la justice de son pays, lui répond non. Ce serait la même chose s'il était en France. Mais bien au-delà, c'est ce que je vous disais, bien au-delà, c'est d'autres questions beaucoup plus profondes qui se posent. Et comment, avec qui mourir? Si Ramona l'aide, elle est coupable. Alors comment faire? Eh bien, Ramón San Pedro imagine un stratagème, c'est-à-dire que entre 11, 12, 13, on ne sait pas exactement le nombre, de ses amis et de ses proches vont participer à un processus. Chacun fera une séquence de ce processus qui conduira jusqu'à ce que ses amis et son amour, Ramona, appellent son départ.
Yo no lo hago muy fuerte.
Yo solo le dije la primera vez.
Moi, j'ai seulement dit la première fois, le premier jour.
J'ai dit rotundement que non, j'aiderais. Pourquoi?
Le premier jour, je lui ai dit que je n'allais pas l'aider. Parce que moi, je voulais. J'étais égoïste comme tout le monde, je ne voulais pas le perdre.
Acabo de conocer, et si se quería morrer, si sigo ayudando a morrer ahora ya, ya me quedo sin él.
Je venais de le rencontrer et je n'allais pas le perdre tout de suite. Je ne voulais pas qu'il s'en aille tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir la réalité de sa vie à lui. Il fallait absolument, il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de lui, jour et nuit, les 24 heures de la journée.
Alors, Ramona, à partir de quand vous avez mis ensemble le processus, disons, de son départ?
Il tignait toujours. Eu desde que o conocí, por lo visto, el tiñao sempre.
Lui, il a toujours eu dans la tête ce processus.
Cada un tiñao seu papel.
Chacun avait son propre rôle dans l'affaire. Moi, j'avais le mien.
O meu papel, de qué iba? Sí. Pues de sua mujer, de sua donna, de estar con él.
Moi, mon rôle, c'était d'être sa femme, d'être avec lui.
Eu fui a sua mujer hasta...
J'ai été sa femme jusqu'à...
Hasta una hora.
Jusqu'à une heure avant sa mort.
A partir d'ahí...
Et à partir de ce moment-là... À partir de ce moment-là, j'ai regardé la télévision.
Que? Sempre fui a sua mulher desde que fui ali. Et quizás antes, por...
J'ai toujours été sa femme. Depuis le premier jour, je suis allée là-bas.
As nossas mentes, non sais si c'est psychologie, si que carajo, estamos... non creo nas bruxas, a verdad, ni nessas tonterías.
Je ne sais pas dans notre...
Pero quizás ya nos teníamos que haber conocido antes.
Je ne crois pas aux sorcières, mais je crois qu'on aurait dû se connaître avant.
A sua mulher, sí. Hasta que momento? Eu queria que fuera hasta sempre, pero non quisiera.
Jusqu'à quel moment? Moi, j'aurais voulu que ce soit toujours, mais... J'étais égoïste à ce moment-là.
J'entendais sa situation, era muy, muy clara.
Je comprenais sa situation.
Non debemos de coller nunca nada que non sea nosso, ni encerrarlo, non?
On ne doit jamais, jamais prendre quelque chose qui n'est pas à nous. On ne doit pas enfermer les gens, les choses. Les...
Où est-ce que vous en êtes avec la justice? Est-ce que vous êtes suspectée, vous, Ramona?
Pero non hay cojones... La justicia, sí, no. Lo digas, di no. Otra cosa, pero eso es así de clara, y no hay cojones.
No debería ser grosera, pero creo que la justicia no tiene couilles.
No tiene couilles, no sé qué se dice en francés. Vivre est un droit, pas une obligation, affirmait Ramon San Pedro. Qui a droit de vie et de mort sur nos vies et sur nos morts? Il semble que la question ait été réglée. Eh bien, pas du tout. C'est une idée. L'idée que notre vie appartient à Dieu et qu'il faut s'en remettre à la divine providence, c'est une idée. L'idée que nos vies appartiennent à notre communauté, à notre famille, à notre État, à notre patrie, tout ça, ce sont autant d'idées que Ramon San Pedro remet en cause, non pas comme un philosophe comme ça, comme le font certains mangeurs de papier imprimé, mais parce que c'est sa vie propre dont il est question, c'est son corps à lui dont il est question, et c'est sa volonté à lui que la justice, l'Église, une partie de la morale l'empêche de faire. C'était Ramona qu'on entendait, sa femme, puisqu'elle le dit, alors voilà, c'est sa femme, c'est son amour. Et voilà quelqu'un d'autre qui est Pépé. Pépé, c'est un voisin, un ami de Ramon dans ce petit village, petit patelin de Galice, sans beaucoup de caractère, le long d'une route comme ça, qui s'appelle le Chugno, et où habitait Ramon San Pedro dans une maison avec, avec sa famille. Donc Pépé est un voisin de Ramon et il nous raconte ce qu'était le désir de Ramon San Pedro quant à sa fin, quant à son départ.
Su gran ilusión fue siempre morir en su pueblo, en su casa y en su cama.
Son désir a toujours été de mourir dans son village, dans sa maison et dans son propre lit.
Cogido de la mano de su padre.
Donnant la main à son père.
De su cuñada.
A sa belle-sœur aussi.
De toda su familia.
Et à toute sa famille et aussi à tous ses amis. Et en écoutant une chanson, laquelle était sa chanson?
Quelle était sa chanson?
Tannhauser de Wagner.
Il voulait mourir en vous tenant la main à tous en entendant
de Wagner. Mais il voulait faire ça en toute légalité.
Entonces, ante la imposibilidad de la legalización, porque los políticos, los intereses políticos, eclesiásticos y de toda índole...
La imposibilidad política, imposibilidad religiosa, social, de toda sorte...
Decide su traslado a Boiro.
Es a ese momento que él decide de se faire transporter a Boiro.
Para no implicar a su familia...
pour que sa famille ne soit pas impliquée dans sa mort.
Y entonces, bueno, pues nada, se toma un tiempo prudencial, se prepara las cosas.
C'est à ce moment-là qu'il a commencé à préparer tout très calmement et qu'il a pris sa décision.
En aquel momento, creo que nadie se pensó que estuviese tan cerca el momento de la determinación final, ¿no?
Je crois qu'à ce moment-là, personne ne pensait que la décision finale de Ramón était si proche.
Él se murió el 12 de enero, y el 11 de enero a las 11 de la noche yo estuve hablando con él por teléfono, y habíamos quedado en que el próximo domingo iba a ir yo y mi esposa... à visitarlo.
La veille, le 11 janvier, je lui ai téléphoné le soir à 11h. Il est mort le lendemain et nous avions projeté, ma femme et moi, d'aller le voir le dimanche suivant pour être ensemble, pour passer la journée ensemble.
Et il est mort dans la nuit du dimanche au lundi?
Si, dans la madrugada del lunes.
Il est mort à l'aube du lundi, oui.
Un autre ami de Ramón San Pedro, c'est Loïs. Loïs nous raconte ce qu'a été pour les amis de Ramon les affres d'avoir à choisir. C'est pas si facile, c'est pas rien de participer, même sur un petit bout, même pour un peu, même préparer le verre, préparer la paille, préparer le plateau, préparer, vous allez l'entendre et le voir, la caméra, puisque Ramon San Pedro voulait que sa mort fût filmée. C'est pas rien de le faire, vraiment. C'est ce que ses amis ont fait, donc 11, 12, 13, on ne sait pas exactement combien, ont participé à ça. Et chacun avait une clé de cet appartement que Ramon San Pedro avait loué dans une ville voisine. Il avait demandé à partir de chez lui pour ne pas compromettre sa famille, dans la mesure où tout le monde n'était pas d'accord chez lui avec son choix. Si certaines de ses sœurs comprenaient, son père avait fini par se ranger douloureusement à sa décision, et l'un de ses frères s'est toujours opposé. Il s'est toujours opposé au choix de son frère, pour des raisons aussi bien probablement de conviction morale, tout à fait respectable, religieuse, tout à fait respectable, mais aussi avec l'idée que si tu nous quittes, c'est que tu nous aimes pas, tu nous aimes plus, et on s'est mal occupé de toi. Et c'est pas simple. De loin, c'est simple, et plus on s'approche de la vie des gens, de la vie et de leur avis, et de leurs problèmes, plus c'est compliqué. Voilà ce que nous raconte Loïs, donc un très très proche ami de Ramón San Pedro.
Yo lo que puedo decir es que Ramón, él exclusivamente, controlaba o controló todo el proceso de ayuda.
Ce que je peux dire, c'est que Ramon, lui, a contrôlé tout le processus de sa propre mort.
C'est lui qui l'avait imaginé. Il a imaginé son plan ou bien il vous en a parlé?
Non, et préparó él el plan.
C'est lui qui a préparé le plan.
Lo que se puede decir es que a unas personas les dijo, tráeme esto, tráeme una cinta, llévame tal cosa. Otra.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a dit à certains, apporte-moi ça, donne-moi ci, trouve-moi cela.
Sí, pero no podemos decir, yo por ejemplo, no puedo certificar en qué modo y de qué medida alguno de los amigos que nos conocemos participó.
Mais par exemple, moi, je ne peux pas dire dans quelle mesure et de quelle manière lequel de ses amis l'a aidé.
Bien sûr, ça, on se doute bien que tu ne le sais pas. Et puis, si tu le savais, et on comprendrait tout à fait que tu ne nous le dises pas. Mais est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les étapes du procédé sans nous dire qui a fait quoi? Parce qu'on sent bien qu'il a voulu et que vous voulez que la chose soit publique, que la chose soit connue. Il a voulu donner à sa mort un retentissement, un sens.
Bueno, es decir... Hay como dos partes. Una es lo que corresponde a la organización del hecho de la muerte.
Il y a deux choses. Il y a la première qui correspond à l'organisation du fait même de la mort.
Y otra parte es lo que corresponde a la publicitación del hecho de la muerte.
Et la deuxième chose, c'est ce qui correspond au fait d'avoir rendu public cette mort.
Bien. En la parte de la publicitación, Ramón hace una grabación de vídeo y la intención de él que manifiesta es para que eso salga a luz y que todo el mundo se entere de que es él quien toma la decisión y por qué la toma.
Oui, dans le fait que ça a été rendu public, il y a le fait que Ramón a été filmé en train de mourir. Et ça, il l'a voulu pour qu'on sache pourquoi il était mort et qu'il avait bien voulu mourir.
C'est ça. Et pendant son agonie, si j'ai bien compris, pendant son agonie, il a parlé à la caméra.
Si, si, habló a la cámara.
Qu'est-ce qu'il dit à la caméra?
Et la primera parte que graba, esta de la limpieza y atención corporal, le vale un poco para empezar diciendo esto es un cerebro esclavo o atado a un cuerpo muerto.
Oui, et toute cette partie où on voit justement tous les soins qu'ils sont obligés d'apporter à son corps, en particulier pour la propreté, avait pour but et pour sens de dire voilà la vie d'un cerveau attaché à un corps mort.
Et después de su intervención dirigida abiertamente a los jueces es cuando bebe el cianuro.
Et après l'intervention où il s'adresse directement au juge, vient la scène où il avale le cyanure.
Monsieur le juge, autorités politiques et ecclésiastiques, après les images que vous venez de voir, une personne prenant soin de mon corps atrophié, insensible, difforme, je vous demande, c'est quoi la liberté pour vous? Pour moi, la liberté, ce n'est pas ça. Ce n'est ni une vie, ni vivre avec dignité. Comme quelques juges, et ceux qui aiment la liberté et la vie, je pense que vivre est un droit, pas une obligation. J'étais obligé de supporter cette pénible circonstance pendant 29 ans, 4 mois et quelques jours. Je ne veux plus continuer comme ça. Je ne voudrais pas mourir de faim et de soif. C'est à quoi vous me forcez. C'est donc vous qui m'obligez à faire cela en ce moment. Ça va faire 5 ans que j'ai fait appel à la justice. J'ai demandé à la justice que mes actes n'aient des conséquences pénales pour personne. Mais au bout de 5 ans, tout cela me paraît grotesque. Et j'ai décidé de terminer d'une manière rationnelle, humaine et digne. Comme vous pouvez voir, j'ai à côté de moi un verre contenant de l'eau et une dose de cyanure de potassium. Quand je l'aurais bu, j'aurais renoncé à la chose la plus intime que j'ai, mon corps. Et en plus, je me libère de l'humiliation d'être une tête vivante attachée à un corps mort. Cet acte de liberté, vous l'appelez suicide assisté ou collaboration au suicide. Je l'appelle aide nécessaire pour être maître et souverain de mon corps. Et de la seule chose qui réellement m'appartient, c'est-à-dire le corps et ce que cela implique, la conscience et la vie. Vous pouvez punir celle qui m'a aimé et qui était cohérente avec cet amour, c'est-à-dire en m'aimant comme si c'était elle-même. Bien sûr, pour cela, il lui a fallu vaincre la peur d'être puni de votre vengeance. C'est là son seul délit. En plus d'accepter le devoir moral d'accomplir ce geste, c'est lui qui lui fait le plus de mal. Oui, vous pouvez punir, mais vous savez que c'est une simple vengeance légale, mais pas légitime. Oui, vous pouvez punir, mais vous savez que c'est une injustice, puisque vous savez que le seul responsable de mes actes, c'est moi, et moi seul. Si malgré toutes mes raisons, vous décidez de donner un exemple, je vous conseille et vous prie de couper à la personne bras et jambes les seules choses dont j'ai eu besoin. L'acte et l'intention viennent de moi. Que ce soit clair, monsieur le juge, que ce n'est pas la personne qui m'a aidé, qui m'a apporté le cyanure, mais je l'ai obtenu à travers une chaîne de gens solidaires.
Merci con mucha serenidad.
Avec beaucoup de sérénité.
Et incluso esboza una sonrisa tímida.
Avec un petit sourire timide.
Y dice en gallego, más o menos, en gallego, xa ven, es decir, ya viene.
Et il dit en galicien, plus ou moins, xa ven, je viens.
Y estos son como minuto y medio o así, y después ya empieza la agonía.
Ça dure une minute trente à peu près, et alors commence l'agonie.
Caia como fruto maduro da árbore da vida, deixádeme ali mesmo onde eu caia, para que me abrace o sol e o vento e a lúa, que a vida me devore chantada tras chantada.
Ramona nous a raconté comment, dans la porte de la chambre, derrière la porte, il y avait un portrait géant de Pablo Neruda, le poète Pablo Neruda, pour qui Ramón San Pedro avait une vénération. Et maintenant, c'est Ramona qui vénère Ramón San Pedro en lui rendant hommage à travers ce poème Canuli. Ramona.
Est-ce que vous en avez parlé à vos enfants?
De qué? La morte de Ramón.
De cette histoire, oui, de la mort de Ramón.
Bueno, las miñas fillas mayores ya son grandes, ya las entienden, pero co pequeño que estaba un poco enamorado de Ramón, que era seu pai para él.
Avec mes filles aînées, oui, bien sûr, j'en ai parlé, elles ont l'âge de pouvoir comprendre, mais avec mon fils le plus jeune, c'était difficile parce que Ramón le considérait un petit peu comme son père et
tinha
il était
tres,
amoureux, il l'aimait beaucoup, il avait 3 ans en ce moment-là.
Entonces para él era seu pai, et entonces como vivía en Boiro, cuando a vivir en Boiro íbamos más a menudo junto de él, estábamos más con él tal, pues iba a votar de menos, ¿no? Entonces tuve que un poco decir a su marcha y tal. Y ahora cuando le preguntan por Ramón, Ramón está en el cielo.
Au moment où Ramón est arrivé à Boiro, à la fin, il était très souvent avec lui parce qu'il aimait bien être avec lui. Et alors maintenant, la chose qu'on peut lui dire, c'est que Ramón est au ciel, qu'il est parti pour être au ciel.
Como fruto maduro da árbore da vida, deixádeme ali mesmo onde eu caia, para que me abrace o sol
C'était Ramon San Pedro, un reportage de Daniel Mermet, Ramon Chao et Guy Vonctil. Première diffusion 29 septembre 1998. Merci à Ramona, Luis, Pepe ainsi qu'à José Chao. Traduction à Nick Baltar. Vous avez également pu entendre des échos de la grève générale à Madrid où se trouve actuellement Antoine Chao. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, sur le site la-ba.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer, assistante Marina Touyez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch qui attend vos messages au 01 56 40 37 37.
MMA, c'est aussi le premier réseau social d'assurance pour les professionnels ?
Bien sûr. Moi, j'exerce une profession libérale et je me suis inquiété du niveau de ma retraite. Je voulais de vraies réponses.
Et alors ?
Zéro tracas. MMA l'a fait. Grâce au diagnostic personnalisé retraite MMA, j'ai pu constituer pour moi et mes collaborateurs une retraite complémentaire dans un cadre fiscal avantageux.
MMA l'a fait ?
Bien sûr. C'est qui les clients pros ?
C'est nous !
Offre soumise à condition.
France Inter, partenaire de l'exposition Le Crépuscule des Pharaons au musée Jacques Marandré à Paris jusqu'au 23 juillet. Pour la première fois, une exposition rassemble les chefs-d'œuvre du dernier millénaire de l'histoire pharaonique prêtés par les plus grandes collections internationales. Ces pièces exceptionnelles vous dévoilent la richesse et la diversité de la création artistique après les derniers Ramsès. Le Crépuscule des Pharaons, une exposition à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Au téléphone sonne ce soir, le regard des jeunes sur la présidentielle 2012. Quelle société pour demain ? La politique peut-elle répondre à leurs attentes ? Vos questions et réactions 01 45 24 7000 dès 17h ou dès maintenant sur franceinter.fr et sur Twitter compte LJDLP. Le téléphone sonne Pierre Veil ce soir à 19h20.
Après le journal Frédéric Lodéon, vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Dans le feuilleton à rebondissement des funérailles de Mohamed Merah après l'Algérie, la mairie de Toulouse entre en scène cet après-midi. Les obsèques sont reportées, Stéphane Iglesis.
Mohamed Merah ne peut pas être inhumé en Algérie, les autorités locales ne le souhaitent pas. Et en France, le maire de Toulouse, Pierre Cohen, est monté au créneau cet après-midi. Dans un communiqué, il estime notamment que cette inhumation n'est pas opportune sur le territoire de la ville de Toulouse. Il demande au préfet de région de différer de 24 heures toute décision et il interpelle l'État à ce sujet. Le père et la mère de Mohamed Merah souhaitaient, eux, que le scooter soit enterré en Algérie, mais la mairie de Médéa, notamment sollicitée par sa mère, ne l'a pas souhaité pour des raisons de sécurité, mais aussi pour éviter de faire de sa tombe un lieu de pèlerinage. L'envoyé spécial de la mosquée de Paris a précisé ce matin à Toulouse que la tombe serait anonyme pour ne pas créer de troubles, qu'il fallait enterrer le tueur, le mettre dans un trou, puis l'oublier. Au cimetière de Cambarieux, près de Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Et à Pierre Cohen, le maire PS de Toulouse, qui interpelle donc l'État. Réponse de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Mohamed Merah était français, qu'il soit enterré et qu'on ne fasse pas de polémique. À chacun ses propositions pour le monde agricole. Au congrès de la FNSE à Montpellier aujourd'hui, 7 candidats à la présidentielle ont passé leur oral. Nicolas Sarkozy a défendu la mise en place dans l'Union européenne d'un Small Business Act à l'image des États-Unis qui réserverait des parts des marchés publics aux PME. Marine Le Pen, elle, s'en est pris au président de la FNSE en le traitant de mauvais lobbyiste. La candidate du FN s'est déclarée surprise de constater que l'un des thèmes sur lesquels les candidats étaient invités à plancher semblait plus consacré aux intérêts personnels de Xavier Belin qu'à ceux des agriculteurs. Xavier Belin, en plus d'être le président du principal syndicat agricole français, est aussi président d'un établissement financier de la filière française des huiles et protéines végétales. Fini les ordures et les mauvaises odeurs dans les rues de Lyon. Les éboueurs ont repris le travail aujourd'hui après 16 jours de grève. Ils protestaient contre un redécoupage de la collecte entre secteurs privés et publics. À l'étranger, la Belgique annonce aujourd'hui la fermeture de son ambassade en Syrie. Les violences, elles, ont repris aujourd'hui sur le terrain. Au moins 14 civils ont été tués ce matin dans les provinces d'Idleb, de Homs et de Hama. Le régime de Bachar el-Assad tente d'écraser les poches de résistance. Aujourd'hui, à Bagdad, en Irak, au sommet de la Ligue arabe, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lancé un appel au président syrien. Il lui demande d'agir sans délai pour appliquer le plan élaboré par l'envoyé spécial de l'ONU, Kofi Annan. Le plan avalisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies prévoit la fin des violences par toutes les parties, la libération des personnes détenues arbitrairement et la fourniture d'aide humanitaire. Les pays sont en prise, on sait, avec leur déficit public. Témoin encore aujourd'hui la grève générale en Espagne pour dénoncer la réforme du marché du travail et les mesures d'austérité contenues dans le projet de budget 2012 qui doit être présenté demain. Les clubs de foot n'ont plus d'argent. En Italie, le déficit cumulé des clubs professionnels sur la dernière saison s'est aggravé de 23% avec 428 millions d'euros. C'est ce que dit aujourd'hui le rapport financier de la Ligue italienne de football. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les jours, à partir de 11h...
Non, je suis ennuyé parce que j'ai envie de vous aimer.
Les affranchis.
Vous n'avez rien bu, là.
Isabelle Giordano.
Rien fumé, ce matin.
Demain, retrouvez Isabelle Giordano et toute l'équipe des affranchis avec leurs invités, François Veillergans et Eric Flutelot, en direct du Studio 106. Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la Maison de Radio France ou réservez vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page des affranchis. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Carrefour musical avec vous, Frédéric Lodéon.
Et bonjour Laetitia.
Bonjour.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. De l'air, et oui, il en manque un petit peu, en tout cas sur la capitale et puis ailleurs aussi, mais pas dans le début de cette émission. On va entendre du vent, ouais, des instruments à vent, que ce soit par exemple l'harmonium, l'accordéon et pour commencer la flûte qui a été vraiment très très bien jouée par certains artistes français comme Buffardin, qui était né en 1690 et que Jean-Sébastien Bach a admiré. C'est ça qui lui a donné l'envie d'écrire des pages pour ce bel instrument et ces pages se sont révélées d'une étonnante beauté. Écoutez ce Jean-Sébastien Bach qui a l'air dégagé et le ton frais malgré la tonalité en principe un peu sombre de mi mineur. Thank you. Allegro de la sonate pour flûte et clavier en mi mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Gaspar Hoyos, qui a étudié à Bogota, en Colombie, qui a commencé d'ailleurs ses premiers concerts avec Jean-Sébastien Bach, avec beaucoup d'inconscience, comme il le dit lui-même. C'est une œuvre maintenant, évidemment, tellement respectable, mais c'est bien de ne pas avoir peur d'aller directement dans le vif du sujet. On a entendu au clavecin Yuri Vinicourt. Et voici un autre instrument avant, mais oui, on l'appelle orgue expressif ou alors harmonium. Et Georges Bizet, par exemple, n'a pas dédaigné l'écriture de quelques pièces pour cet instrument qui a été très important au 19e siècle parce qu'on essayait de faire tenir le son. Le clavecin ne peut pas beaucoup, le piano un peu plus grâce à sa pédale de droite notamment. Et c'est quoi les caractéristiques de cette invention? Le son est formé par des hanches libres comme pour l'accordéon, et l'air est propulsé par un système de soufflet actionné au moyen de deux pédales tout simplement. Et cet instrument s'est bien implanté dans les années 1880 dans les salons parisien, et oui, et puis dans les églises, vous savez, dans les sacristies, on a trouvé encore, il y a une trentaine d'années, on voyait pas mal d'harmonium, on les entendait, quelquefois ils étaient complètement en panne, mais enfin bon, il existe moins l'harmonium, mais il vaut quand même un petit détour. Voici donc un caprice pour orgue expressif ou harmonium de Georges Bizet.